à chaque fois dans ces exemples. Qui parmi vous aime les surprises? Alors, les surprises, oui, Emmanuel, ça ne m'étonne pas. S'il y avait des enfants, je pense qu'ils seraient unanimes à dire qu'ils aiment les surprises. Mais apparemment, nous adultes, on est un peu plus mitigés. Ou est-ce que c'est parce que vous êtes déjà tous assoupis? Notre esprit d'adulte a plus de mal à s'enthousiasmer que ne le ferait celui d'un enfant. Peut-être que notre expérience personnelle dans notre enfance a été plus difficile, ou notre vécu depuis. Devenons-nous plus froids ou plus blasés? Est-ce le doute qui s'installe, ou la désillusion, ou simplement un plus grand rationalisme ou réalisme? Les enfants seraient unanimes parce que pour eux, surprise veut automatiquement dire bonne surprise. C'est curieux, mais ils associent automatiquement ce qualificatif positif à ce mot de surprise. Et pourquoi cela? Probablement du fait que leurs parents les chouchoutent beaucoup et leur ont déjà fait de belles surprises. C'est certainement un élément déterminant qui les conditionne. Et ainsi, logiquement, les enfants ont simplement confiance dans le fait que leurs parents ne leur feront que de bonnes surprises et jamais de mauvaises surprises. Oui, ils ont confiance en leurs parents qui les aiment. Ils ont confiance en ce que ceux qui les aiment ne leur feront jamais de coups tordus. Pourquoi n'avons-nous pas, ou plus, cette même confiance? Avec le temps, nous découvrons malheureusement que les êtres humains peuvent décevoir, être faillibles, et même nos parents ne sont pas si parfaits que cela, loin s'en faut des fois. Et c'est le cas pour nous aussi, même, en tant que parents. Mais qu'en est-il de notre Père Céleste? Qu'en est-il de notre confiance en celui qui nous aime comme personne ne nous aime? Il ne nous reste quelques heures de 2017 et bientôt le début d'une nouvelle année. À quoi nous attendons-nous de sa part? Nous réserve-t-il de bonnes ou de mauvaises surprises pour 2018? Sommes-nous pleinement confiants ou sommes-nous un peu plus mitigés? Bonne surprise ou mauvaise surprise en perspective? Je vais peut-être vous surprendre, mais si j'ai bien compris ce que nous dit la Bible, j'ai peut-être pas bien compris, hein, je crois que nous ne devrions simplement pas nous attendre à une quelconque surprise de la part de Dieu. Nous ne devrions pas nous attendre à une quelconque surprise de la part de Dieu. Aucune surprise de sa part, bonne ou mauvaise, c'est ce que nous disent les Écritures, je crois. Plusieurs passages nous le spécifient. Nous ne devrions pas nous étonner de ce qu'il fait. Ne pas être surpris de qui il est. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? C'est une question posée dans le livre de la Genèse, en Genèse 18, 14. Une question posée par Dieu lui-même à Abraham, et qui n'est en fait pas vraiment une question, mais bien plutôt une affirmation de sa part. Il n'y a rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel. J'ai choisi un autre passage pour illustrer davantage, un passage dans le livre du prophète Jérémie. Oh, surprise! Effectivement, le livre de Jérémie peut sembler surprenant. Vous ne l'auriez probablement pas choisi en cette période festive de fin d'année, et moi non plus. Non. Jérémie est un livre tout sauf léger. Certains le trouvent même très décourageant, déroutant en tout cas. C'est vrai qu'il relate une époque des plus sombres du peuple d'Israël, une période d'échec, on pourrait dire, que beaucoup ont peut-être déjà qualifié d'échec de Dieu, voire de preuve évidente, au mieux de son inaction, au pire de sa non-existence ou de sa méchanceté. Pourtant, ce livre, vous le savez sans doute aussi, recèle également de promesses et de rappels sur la nature divine assez extraordinaire, voire même, on peut le dire, surprenante au vu du contexte. Le contexte, justement, de ce livre de Jérémie, je le rappelle, la ville de Jérusalem était assiégée depuis de longs mois, déjà par l'armée de Nebuchadnezzar, le roi des Babyloniens. qui a construit des terrasses autour de la ville pour attaquer les murailles. L'ennemi va bientôt prendre la ville, qui sera vaincue par l'épée, alors qu'elle est déjà victime de la famine et de la peste, et il déportera une bonne partie de la population. Une situation générale dramatique, comme notre propre pays n'en a pas connu depuis longtemps. Et à titre personnel, Jérémie est en prison, risquant à tout moment de se faire tuer par ceux qui ne l'apprécient pas, car comme il recommandait de se rendre et de se soumettre à Nebuchadnezzar, il était considéré comme un traître pro-babylonien, bien qu'il parlait sous l'inspiration du Saint-Esprit. Une situation personnelle délicate, comme peu d'entre nous aussi en a déjà connu, je pense. Lisons donc dans Jérémie, au chapitre 32, à partir de la fin du verset 16 jusqu'au verset 28. Et je lis dans la version second. Donc c'est Jérémie qui parle. « J'adressais cette prière à l'Éternel. Ah, Seigneur Éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre. Par ta grande puissance et par ton bras étendu, rien n'est étonnant de ta part. Tu fais miséricorde jusqu'à la millième génération et tu punis l'iniquité des pères dans la personne de leurs enfants après eux. Tu es le Dieu grand, le puissant, dont le nom est éternel des armées. Tu es grand en conseil et puissant en action. Tu as les yeux ouverts sur toutes les voies des enfants des hommes pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Tu as fait des miracles et des prodiges dans le pays d'Égypte jusqu'à ce jour, et en Israël et parmi les hommes, et tu t'es fait un nom, comme il l'est aujourd'hui. Tu as fait sortir du pays d'Égypte ton peuple d'Israël, avec des miracles et des prodiges, à main forte et à bras étendus, et avec une grande terreur. Tu leur as donné ce pays, que tu avais juré à leur père de leur donner, pays où coule le lait et le miel. Ils sont venus, et ils en ont pris possession. Mais ils n'ont pas obéi à ta voix. Ils n'ont point observé ta loi. Ils n'ont pas fait tout ce que tu leur avais ordonné de faire. Et c'est alors que tu as fait fondre sur eux tous ces malheurs. Voici, les terrasses s'élèvent contre la ville et la menacent. La ville sera livrée entre les mains des Chaldéens qui l'attaquent, vaincue par l'épée, par la famine et par la peste. Ce que tu as dit est arrivé, et tu le vois. Néanmoins, Seigneur Éternel, tu m'as dit, achète un champ pour de l'argent, prends des témoins. Et la ville est livrée entre les mains des Chaldéens. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? On ne se sent pas nécessairement si mal si on compare notre situation à celle de Jérémie. En tout cas, difficile de parier sur l'avenir, comme on dit, dans le genre de situation où il se trouvait. Et pourtant, Seigneur Éternel, rien n'est étonnant de ta part. Je suis l'Éternel, y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Au-delà des circonstances et des événements du moment, ce sont, à mon avis, les phrases clés de ce passage. Et donc, s'il n'y a rien d'étonnant de la part de l'Éternel, rien de ce qu'il fait ou de ce qu'il est ne devrait donc nous étonner ou nous surprendre. Parole non seulement d'un homme, Jérémie, dans sa prière, mais de l'Éternel lui-même en réponse à cette prière. On ne va pas s'étendre sur les détails de cet épisode, mais alors que Dieu a annoncé, on ne peut plus clairement, qu'il allait livrer Jérusalem entre les mains des ennemis. Ce que Jérémie lui-même a annoncé à son tour maintes fois aux Israélites, et c'était son rôle de prophète. Malgré tout ça, Dieu lui a fait aussi acheter un champ que met en vente un membre de sa famille, un champ dont les ennemis ont déjà pris possession pourtant, puisqu'il est hors de la ville. À courte et moyenne échéance, l'avenir est sombre, très sombre. Mais il y a une lumière au bout du tunnel, et c'est ce que l'Éternel annonce déjà par ce biais-là. C'est complètement fou à vue humaine de faire des investissements fonciers alors que le pays va passer sous domination étrangère et que les gens vont être déportés. Mais sur l'ordre de l'Éternel, Jérémie le fait, et Jérémie le fait avec force publicité, avec des témoins, nous dit le texte, pour que les gens le sachent. Je disais tout à l'heure, pas de surprise avec Dieu. Il est pleinement prévisible parce que de fait, dans sa grande bonté, Dieu révèle les choses. Et on peut le voir à travers toute la Bible. Il prévient, et prévient, et prévient encore. Il avertit quand il a décidé une action pour punir. Et plus encore, bien visible également à travers toutes les Écritures, il annonce, et il annonce encore. Aussi est déjà le rétablissement, la restauration, la perpétuation de son alliance et de ses promesses. Alors pourquoi les gens sont-ils si surpris de ce que l'Éternel fait ? Pourquoi s'en étonnent-ils si souvent ? Malheureusement, en général, les gens n'écoutent ni les avertissements, ni les promesses. Mais la volonté de Dieu s'accomplit de toute façon, qu'on le veuille ou non, que l'on y croit ou non. Seigneur éternel, rien n'est étonnant de ta part. Et pourtant, fort de cette certitude énoncée au début de sa prière, Jérémie se pose quand même des questions, et pose des questions à Dieu. Ce n'est pas interdit d'avoir des questions et de les partager avec le Seigneur. La preuve dans ce passage, et au verset 25 notamment. Jérémie a obéi à l'ordre qu'il avait reçu de Dieu, mais la situation le laisse quand même perplexe. Jérémie a de quoi s'étonner de ce que Dieu lui fait faire. Pour ce qui est de l'avenir proche, Jérémie sait. Il sait que la chute de Jérusalem est déjà actée par Dieu. Mais alors pourquoi lui faire acheter un champ ? Oui, pourquoi faire ? Notre problème est souvent, je pense, de confondre doute et questionnement, de confondre manque de confiance, voire crainte de l'avenir, et interrogation. Ce n'est pas le cas de Jérémie. Jérémie ne doute pas. Jérémie n'a pas peur. Jérémie n'angoisse pas. Il ne se demande pas ce qu'il va devenir, car effectivement, Jérémie a une pleine confiance en Dieu, et une confiance confirmée par son acte de foi, par l'achat de ce champ comme Dieu le lui a demandé. Mais la confiance n'est pas toujours chose facile, car il est évident que cette confiance ne lui donne pas toujours une pleine compréhension du programme de Dieu. Cette confiance ne lui a pas toujours permis de saisir pleinement les intentions divines, et en particulier sur ce qui arrivera dans un futur lointain, et c'est le cas ici. On a le droit d'être dans une certaine incompréhension, car notre entendement est limité. Notre horizon est court, au contraire de Dieu qui sait déjà tout, depuis avant même la fondation du monde. Mais que cela ne devienne pas un sujet de crainte, de peur, d'inquiétude ou d'angoisse, car nous devons et pouvons avoir une pleine confiance en Dieu. Jérémie aimerait juste comprendre, et il interroge Dieu. Et interroger Dieu, c'est un droit. Oui, on a le droit, c'est légitime. Et en l'occurrence, Dieu lui répond. Dieu lui répond directement à sa question en rappelant premièrement qu'effectivement, rien n'est étonnant de sa part. Et selon les traductions que vous avez dans vos Bibles, certaines souligneront plutôt le fait qu'il n'y a rien de trop extraordinaire pour Dieu ou rien de trop difficile pour lui, soulignant là sa toute-puissance. Le fait qu'il puisse tout, absolument tout, même si la situation actuelle semble désespérée ou hors de contrôle, cela ne veut pas dire que Dieu ne la maîtrise pas. Cela ne veut pas dire qu'il n'a pas déjà prévu la suite et une suite conforme à ses engagements, à ses promesses et à ses alliances. Et encore et toujours, l'Éternel accomplira son plan immuable par le retour fidèle d'un reste d'Israël 70 ans plus tard. Jérémie ne le verra pas, lui-même, comme Abraham n'avait pas vu lui-même la promesse s'accomplir pour ses descendants. Mais ça, c'est une autre histoire. En l'occurrence, Dieu lui répond. Il est quand même verni, Jérémie. N'est-ce pas secrètement ce que l'on se dit souvent, intérieurement, avec une petite pointe de jalousie ou d'envie ? Facile pour lui, mais combien de fois où Dieu ne répond pas pour ce qui nous concerne ? Pense-t-on peut-être avec un petit soupir de dépit, voire de mécontentement ? Combien de fois où Dieu ne répond pas ? Mais c'est aussi son droit de ne pas le faire. Dieu a le droit et le droit souverain de ne pas répondre, en tout cas ne pas répondre directement ou de la façon dont nous l'exigeons, demandons bien sûr. Ce faisant, Dieu ne sera ni sourd, ni méchant, ni injuste, mais ça on a peut-être du mal à le comprendre et encore plus à l'accepter. Néanmoins, ses promesses en la matière sont aussi certaines. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, nous dit Philippiens 4:7, que nous devrions connaître par cœur, je pense. Adressez-moi vos questions, vos requêtes, vos besoins, vos prières, et je vous promets, dit Dieu, qu'à minima, ma paix vous gardera. Voilà ce que Dieu nous promet comme réponse systématique. On vient de le chanter, je ne sais pas si c'était juste des paroles d'un chant ou si on se laisse bien approprier. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Et pour le reste, il est souverain et que sa volonté soit faite. Par définition, une surprise, c'est un événement inattendu. Et pourtant, on l'a dit, Dieu est prévisible. Nous, on n'aime pas trop être prévisible. Parce que cela veut dire que les autres peuvent en quelque sorte lire en nous, et on croit que c'est une faiblesse. En particulier dans un monde de compétition ou dans un monde de requins. Mais Dieu est prévisible, parce qu'il ne joue pas une partie de poker avec le monde, et encore moins avec nous, ses enfants. Il se révèle, il se dévoile, et il dévoile ses plans et ses projets. Il ne cache pas ses cartes pour nous bluffer, pour garder une certaine puissance ou pour essayer de gagner la partie contre des adversaires. Dieu est la vérité et l'intégrité même. Pas de bluff. Dieu est le Tout-Puissant. Pas besoin pour lui de jouer sur le sujet. Dieu est plus que vainqueur en toutes choses. Les adversaires sont déjà vaincus. Notre problème, c'est souvent que nous transposons sur Dieu des motivations ou des travers humains. Nous transposons sur lui nos motivations, pas toujours bonnes, et nos limites, nos travers. Mais Dieu, lui, joue la carte de la transparence, de la révélation. Il est prévisible, mais ce n'est pas une faiblesse de sa part, c'est plutôt une grâce. Oui, une grâce pour nous. Notre tendance à transposer sur Dieu nos limites nous induit régulièrement en erreur. Parce que nous ne connaissons pas l'avenir et que nous sommes ainsi régulièrement surpris, nous croyons aussi facilement que Dieu lui-même est surpris et que Dieu adapte simplement sa stratégie en fonction des circonstances. Mais ce n'est pas le cas de Dieu. Dieu n'a pas de plan B. Dieu n'a jamais de plan B parce qu'il ne subit jamais les circonstances. Dieu ne découvre jamais un coup inattendu de l'ennemi auquel il réagirait rapidement pour en limiter les conséquences. Dieu n'est pas comme un marin dans une mer agitée qui essaierait de louvoyer pour essayer d'éviter autant que possible les plus grosses vagues. Dieu n'est pas un général dans une bataille qui ajuste ses plans en fonction de ses succès ou de ses échecs. Non, non et non. On pourrait prendre plein d'images du même style. Et ce serait trop long que d'en aborder le détail, mais deux exemples bibliques les plus importants à la matière sont, je pense, premièrement, que Dieu n'a pas vécu la chute d'Adam et Ève comme une surprise, subie à laquelle il a dû essayer de remédier. Et deuxièmement, Dieu n'a pas envoyé Jésus comme victime à la croix parce que son plan initial avec la loi de Moïse avait raté. Non. On a peut-être ce genre de compréhension erronée de l'histoire. On a peut-être ce genre de compréhension erronée de nos circonstances. Et cela nous donne une compréhension erronée de Dieu. Et nous devons y être vigilants. Car en effet, je pense que notre manque de confiance et du fait que nous soyons donc souvent surpris par ce qui nous peut nous arriver, vient souvent d'un manque de connaissance, une méconnaissance ou un manque de connaissance de Dieu. Corrie ten Boom disait, et elle aussi, si vous connaissez son histoire, elle en a eu des circonstances dramatiques, elle disait « Il ne faut jamais craindre de confier un avenir inconnu à un Dieu que nous connaissons. » Il ne faut jamais craindre de confier un avenir inconnu à un Dieu que nous connaissons. Mais connaissons-nous Dieu ? Le connaissons-nous bien ? Dieu se révèle, Dieu se dévoile, on l'a rappelé. Alors saisissons-nous l'opportunité de toujours mieux le connaître ? Ou nous contentons-nous de rudiments, du niveau élémentaire, du lait spirituel, comme s'indignait l'apôtre Paul par rapport aux Corinthiens? Jésus a-t-il jamais été surpris par un quelconque événement, par une quelconque personne, par une parole? Jamais. Jamais, et pour cause, il avait le privilège de connaître parfaitement Dieu. Il avait ce privilège de connaître parfaitement le Père au point de pouvoir dire « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » En Jean 8, verset 19. L'inconnu est source de crainte, mais Jérémie ne craignait pas. En tout cas, pas une mauvaise surprise. Et inversement, la justice, la fidélité, la miséricorde de Dieu et même la réponse de Dieu à ses prières n'était pas des surprises pour lui, même bonnes. Fort de sa connaissance personnelle de Dieu, acquise au fil des années, au fil des prières, au fil des lectures, au fil des révélations, au fil des soumissions, au fil des épreuves, au fil des grâces. Jérémie ne s'inquiète pas. Et pourtant, il n'est pas dans des circonstances optimales. Et nous ne le devrions pas non plus. D'autant moins si, en tant qu'enfants de Dieu, nous connaissons sincèrement et profondément qui est notre Père. Nous ne devrions pas nous inquiéter non plus. D'autant moins si, en tant qu'enfants de Dieu, nous connaissons sincèrement et profondément qui est notre Père. On ne peut pas ce matin passer en revue toute la connaissance possible de Dieu, évidemment. Mais peut-être quelques rappels peuvent nous encourager à la veille de cette nouvelle année pour ce qui concerne les fondamentaux de son action et de son être, sur des questions peut-être qui nous viennent régulièrement à l'esprit. M'aimera-t-il toujours, en toutes circonstances et en tout temps ? Oui. Même si ma conduite n'est pas toujours à la hauteur de ses attentes, la réponse est oui. Pas de surprise à attendre de ce côté-là. Relisez la promesse bien connue de Romains 8, versets 38 et 39, par exemple. Car j'ai l'assurance. C'est pas « ouais, je pense que oui, je suis pas sûr ». J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de Dieu, de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Oui, mais me pardonnera-t-il toujours si je confesse mon péché ? La réponse est oui. Pas de surprise à attendre de ce côté-là. Relisez la promesse de 1 Jean 1,9 par exemple. Si nous confessons nos péchés, les fidèles et justes, pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Oui, mais sera-t-il toujours fidèle à ses promesses, à ses engagements et à son alliance? Tout ce que l'on a déjà dit ce matin répond déjà à cette question. Et la réponse est évidemment oui. Pas de surprise à attendre de ce côté-là. Relisez la promesse de 2 Timothée 2,13 par exemple. Il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Ou les psaumes, on en a lu un ce matin. Un grand nombre d'entre eux rappelle la fidélité de Dieu. Il y a plein d'autres exemples, nous le savons, et tout cela, nous ne devrions pas être surpris par Dieu. Fort de ses promesses, nous ne devrions pas être surpris par Dieu en ce qu'il est ou en ce qu'il fait. Ouais, d'accord, pour ces grandes choses, pas de doute, enfin pas trop ou pas trop souvent, mais pour des choses plus personnelles encore. M'arrivera-t-il de bonnes ou de mauvaises choses quand même cette année ? Question délicate, et c'est vrai que nous ramenons souvent toujours tout à nous-mêmes, mais considérons-nous tout ce qui nous arrive à la lumière des critères de Dieu ? Si c'est le cas, la Bible nous dit aussi, donc Dieu nous dit aussi cette promesse en Romains 8, verset 28, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Pas toujours évident au quotidien ce verset, n'est-ce pas ? Et admettons, mais n'ai-je pas au moins le droit d'être un peu surpris par certaines des réponses de Dieu qui sont pour le moins inattendues à mes prières ? On l'a évoqué un peu tout à l'heure. Ces réponses peuvent effectivement parfois nous surprendre, car elles diffèrent de ce à quoi nous nous attendions, ou elles diffèrent de ce que nous espérions. Mais elles ne devraient pas nous surprendre plus que cela, puisqu'elles sont et seront systématiquement conformes à sa personne, à sa volonté, à sa parole, à ses promesses. Et pourtant, on s'inquiète quand même. Ah là là, de quoi 2018 sera-t-elle faite ? Comme conclusion, je vais juste reprendre ce qu'un ami écrivait dernièrement dans sa lettre de nouvelles. Enfant déjà, écrit-il, j'étais surpris du manque de foi des Israélites durant leur longue traversée du désert. On pourrait penser qu'après avoir vu Dieu pourvoir miraculeusement à leurs besoins une première fois, il leur serait facile de lui faire confiance lors de la prochaine crise. Eh bien non. Pour ma part, j'aimais à penser qu'à leur place, j'aurais été différent, que j'aurais appris à faire confiance à Dieu. Après avoir expérimenté le premier miracle, et que je n'aurais plus jamais douté. Mais malgré tous les encouragements et les exaucements de prières déjà obtenus dans ma propre vie, je me prends toujours à nouveau à douter et à craindre lorsque surviennent de nouveaux défis. Finalement, je reconnais n'être donc guère différent des Israélites. Ne sommes-nous pas tous un peu pareils, voire beaucoup, trop en tout cas ? Je sais bien que l'inquiétude ne vide pas le lendemain de ses soucis, elle vide aujourd'hui de sa force. C'est encore Corrie ten Boom qui écrivait cela. L'inquiétude ne vide pas le lendemain de ses soucis, elle vide aujourd'hui de sa force. Et pourtant, je me surprends toujours à nouveau à fixer mes yeux sur mes circonstances plutôt que sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Je ne sais pas quel défi vous faites face en ce moment, mais au seuil de nouvelle année, j'aimerais nous encourager tous à nous décharger sur lui de tous nos soucis, car lui-même prend soin de nous. 1 Pierre 5,7. Et sans surprise, sans surprise. Dieu ne fait rien d'inattendu. Merci, notre Dieu, car nous pouvons être sereins et confiants en toi, en ta fidélité. Amen. Je vous invite à prier. C'est vrai, Seigneur, que nous nous faisons surprendre par bien des choses. Et même souvent, nous sommes surpris par ce que tu fais. Alors que ta parole nous révèle qui tu es, nous révèle ton plan pour l'humanité, ton plan même pour chacun d'entre nous, et nous arrivons encore à nous étonner. Donne-nous de mieux te connaître, pour être plus stable dans notre foi, moins fluctuant, plus confiant, plus serein. Nous nous réjouissons de cette nouvelle année parce que tu seras à nos côtés, comme tu l'as été par le passé. Les circonstances ne seront peut-être pas faciles. On a pu voir l'exemple de Jérémie. Mais ces circonstances, c'est toi qui les permets, c'est toi qui les conduis, c'est toi qui les maîtrises. Aussi, nous pouvons nous réfugier en toi, nous appuyer sur toi. Seigneur, tu connais nos faiblesses, tu connais nos questionnements. Nous avons besoin de tes encouragements réguliers. Nous avons besoin de te voir à l'œuvre tant de fois. Mais merci parce que tu es patient, tu es miséricordieux, tu es fidèle. Et nous nous réjouissons, oui, vraiment de passer cette nouvelle année avec toi. Merci pour ta grâce, pour ce privilège de te connaître et de pouvoir, sans surprise, être gardé dans ta main, quelles que soient nos circonstances. Donne-nous, Seigneur, de, pendant cette nouvelle année, de davantage rechercher ta face, de davantage chercher à te connaître pour vivre plus étroitement, plus profondément, plus intimement cette communion avec toi, cette relation avec toi comme tu le souhaites. Merci de bénir chacun et chacune et de nous aider à briller, à refléter cette paix, cette joie que tu veux nous donner pour qu'elle soit communicative, que d'autres aient aussi envie de te découvrir, car nous savons que tu es la solution au problème de chacun de nos contemporains. Merci pour ta fidélité encore, merci pour toutes tes grâces. En Jésus. Amen.